Salut à tous. Bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Le programme du jour a été chamboulé par l'actualité et on va forcément parler, avec Florian Vanet et Daniel Visentini du Sport Center, ainsi qu'Alain Rorbard de Blue Sport, de la bourde administrative du Servette FC. Lors de ce podcast, on va aussi revenir sur le derby vaudois et les projets de ces deux formations. On va aussi parler des potentiels barragistes de Challenge League et de ce qu'il se passe en deuxième division suisse. Bonne écoute.
C'est parti, salut Florian, salut Daniel, salut Alain. On va tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Daniel, on enregistre, il est 13h et c'est en ligne. Servette a fait une belle bourde administrative qui risque d'embêter un peu jeudi soir.
Alors, jeudi soir, pas tant que ça, mais ça va embêter surtout Servette pour la suite de la saison. La bourde, c'est la suivante. Servette avait jusqu'à jeudi soir, 23h59, pour envoyer un mail en biffant les joueurs dont il ne voulait plus, les joueurs transférés, par exemple. Je parle de Bedia, je parle de Fofana. Des joueurs qu'ils ne veulent plus, par exemple comme Ongene ou bien comme Rodelin. Ces joueurs-là, il fallait les biffer de la ligue pour laisser de la liste du contingent auprès de la Swiss Football League pour laisser de la place aux 4 renforts que Servette a engagés cet hiver. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Servette a oublié d'envoyer cette liste corrigée avec les noms biffés. La liste qui fait foi actuellement, vous pouvez la vérifier sur le site de la SFL. Il y a encore Bola, il y a encore Bedia, il y a encore Fofana dedans. Et Servette se retrouve le bec dans l'eau avec maintenant un cas d'école sidérant. Ils ont oublié d'envoyer ce mail. Ça veut dire que 3 joueurs sur les 4 ne peuvent pas jouer. Braun dispose d'un passe-droit, c'est pas d'un passe-droit, ça, il profite en fait du système qui dit que quand un joueur est prêté, c'est le cas de Touati à Ville, il libère automatiquement une place, même hors délai, donc au-delà de jeudi 23h59, cette place est de toute façon libérable parce que c'est un prêt. À ce moment-là, Servette, quand ils ont appris leur énorme bêtise, a fait un choix et a dit on a plus besoin d'un défenseur que d'un attaquant, et ils ont couché sur la liste Braun, c'est pour ça qu'il a pu jouer dimanche contre Lugano. Mais pour les 3 autres, ce qui pend maintenant au nez de Servette, qui va argumenter devant la commission des transferts pour faire valoir son droit, quel droit, on peut se poser la question, puisqu'ils ont fait une bourde sidérante à ce niveau-là, c'est du pur amateurisme, il faut appeler un chat un chat, Servette se retrouve actuellement avec 3 joueurs qui n'ont pas le droit de faire jouer en championnat, ni en Coupe de Suisse. Et puis, pour ce qui est de Nishimura en Europe, ce ne sera même pas le cas puisqu'il a été transféré après la date butoir européenne qui permet d'inscrire sur les listes UEFA. Bref, Servette est mal en point et c'est vraiment moche ce qui se passe. L'équipe ne mérite pas ça, Bayern non plus.
Alain, c'est quand même très étonnant à ce niveau de la compétition, j'ai envie de dire, d'en arriver à des erreurs pareilles. C'est quoi ? C'est un manque de structure ? C'est un manque d'expérience de ce niveau ?
Je suis sidéré d'entendre ce que Daniel nous dévoile. C'est ahurissant parce que si je mets à l'échelle suisse, au niveau de l'organisation, au niveau de l'occupation dans les bureaux, des synergies mises en place par Servette, en Suisse romande, c'est de très loin ce qui se fait de mieux. Et c'est peut-être le seul club de haut niveau en Suisse romande qui pouvait regarder dans les yeux les meilleures organisations alémaniques. Je disais regarder parce que j'arrive pas à m'expliquer cette bourde, c'est une faute professionnelle. Clairement, on avait déjà eu quelques ratés lors du dernier déplacement à Tiraspol avec tout le monde l'a appris après coup. Bedia qui avait oublié son passeport. Comment on peut laisser les joueurs venir le jour même au rassemblement avec leurs papiers administratifs? Enfin, pour en avoir discuté avec nos consultants qui ont joué sur la scène européenne, il n'avait jamais vécu une telle situation. Donc, est-ce de l'amateurisme? Est-ce un manque d'expérience? Est-ce que finalement, ça manque clair et précis dans l'organigramme de qui devait faire ça? J'ai pas la réponse, mais c'est effectivement surtout dommageable pour l'aspect sportif. Parce qu'on attendait tous cette fin de championnat, parce que Servette reste le seul mentor à pouvoir nous amener un peu de suspense au niveau du championnat, si on parle du titre, bien évidemment.
Florian, c'est hallucinant, parce que c'est aussi presque un sport de journaliste, hein, c'est d'aller voir ses listes pour savoir qui n'est plus voulu, qui est sur le départ, qui est vraiment parti. Qu'un club pro n'ait pas pensé à ça, c'est fou.
Ben, ce qui est sidérant surtout, c'est que aujourd'hui, la Swiss Football League offre une latitude énorme à ses clubs pour faire ce qu'ils veulent avec leur liste de joueurs, pour pouvoir retomber sur leurs pattes durant l'hiver. On sait que maintenant, tu peux enlever comme tu as envie vraiment 3 joueurs de ton effectif durant la période hivernale sans rien demander à personne, ce qui n'existait pas avant.
Plus de joueurs en prêt.
Oui, exact. Oui.
En plus,
exact.
Donc, ça fait 5.
Ouais, ça fait 5, puis encore d'autres règles qui te permettent d'arriver même à 6, 7, 8. Voilà, donc le football suisse a voulu se moderniser pour un peu mieux correspondre aussi aux clubs comme le Lausanne Sport, comme Lugano, qui appartiennent à des galaxies, qui font beaucoup tourner les joueurs, etc. Mais maintenant qu'on bénéficie d'une latitude comme ça, c'est inconcevable de réussir à encore se tromper sur des cas qui sont devenus aujourd'hui commun, quoi.
Non, mais c'est tout bonnement incroyable, inconcevable. C'est une faute professionnelle grave, évidemment. Et à toutes fins utiles, moi, vendredi, j'ai contacté la Ligue et je leur ai demandé si les joueurs étaient qualifiés sportivement. Et ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Nishimura et Braun sont qualifiés sportivement. Je n'ai pas pensé une seconde que Servette avait oublié de biffer les noms. Je veux dire, ça fait partie des 3 mails les plus importants de toute la saison que tu ne peux pas oublier. Je veux dire, parce que tu as le mercato d'été où tu dois faire la même chose, le mercato d'hiver où tu dois le faire, et puis il y a le mail pour la demande de licence. Point barre. C'est les trois mails les plus importants de l'année. Et non, alors voilà, ça y est, on a oublié. C'est magnifique.
Les articles à respecter, en plus, dans le règlement, sont pas nombreux, quoi. T'es en 5 minutes, t'as lu ça. C'est pas non plus des cas extrêmement complexes. Il y a évidemment des démarches administratives sans doute un peu lourdes, mais au-delà de ça.
L'administratif de Servette, c'est aussi ça, hein, parce que on peut louer l'organisation, tout ce qu'on veut, Genève Sport a tes avantages, mais aussi ses travers. Il y a un turnover phénoménal à l'intérieur de cette structure-là qui veut embrasser à peu près et tout gérer pour plusieurs clubs. Et puis, on peut s'interroger aussi. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui était préposé à justement s'occuper de biffer les listes et de vérifier qu'elles soient à temps précisées à la SFL dans les délais, autrement dit, jeudi soir à 23h59, pour le cas qui nous concerne. Cette personne-là a été licenciée. Voilà,
ceci. Et maintenant, c'est quoi les solutions, Daniel, par rapport à la possibilité de faire recours, de se défendre?
La solution, comme j'en parle dans le papier, la première solution, c'est de plaider sa cause devant la commission des transferts. La commission des transferts, c'est une commission indépendante de la Swiss Football League qui va examiner les arguments de Servette. Je ne sais pas ce que Servette va dire. Servette va peut-être dire on a eu un bug informatique, auquel cas il faudra qu'il le démontre. Plaider l'oubli, ça va être compliqué parce que les autres clubs, eux, on n'a pas oublié. Et puis on peut dire
le licenciement de l'employé en question.
Mais l'autre porte de sortie, c'est ce que j'avais dans le papier. Je me suis penché sur le cas, j'ai vérifié auprès de la Swiss Football League qui m'a confirmé que c'était possible. Kouati a été prêté. J'insiste sur le caractère du prêt. Il faut que ce soit un prêt. Quand un joueur est prêté, même hors délai, il libère une place.
Donc, il faut filer des types à Carrouge qui sont sur la liste. Et tu veux
alors, non, parce qu'à Carrouge, le mercato suisse est fermé. Il faut prêter dans un endroit où c'est ouvert. Alors, j'ai fait la liste de tous les pays où c'était ouvert. Ça va de la Slovaquie à la Pologne, en passant par la Chine et plein d'autres pays. Il y a 2 jours encore d'ouverture de mercato en Pologne. Il y en a 3 en Estonie. Il y en a 8 au Sénégal, par exemple. Servette, s'il arrive à prêter l'un de ses joueurs non HTP, donc non formé localement, à un club où la période de transfert est encore ouverte, va pouvoir sauver les meubles quelque part. Autrement dit, envoyer quelqu'un en prêt dans un club, et puis ça libérera automatiquement une place supplémentaire, auquel cas Servette pourrait inscrire Nishimura, je pense, parce que la question ne se pose pas différemment. Mais les deux autres resteront sur le carreau, à moins que la commission des transferts examine les arguments de Servette et dise « Ah, bah finalement, oui, c'est malheureux, vous aviez Ludo Goretz le soir même, vous avez oublié. Donc, allez, ça va aller. Je doute que les autres clubs regardent ça avec autant de mansuétude. » Voilà.
Attends, comme tu t'es penché sur la question, Daniel, est-ce qu'il y a des transferts que tu as déjà pu imaginer? Est-ce qu'il y a des joueurs que de l'effectif actuel de Servette où tu pourrais…
Mais on peut tout imaginer. Servette peut même donner une prime à un joueur pour l'envoyer dans un club pourri quelque part. J'en sais rien. Enfin, je dis ça sans méchanceté pour le club.
Mais tu verrais qui partir.
Mais il y en a tout plein. Je veux dire, Ongainé, il ne s'entraîne pas avec Servette. Rodelin ne s'entraîne pas avec Servette. Alors, peut-être qu'ils peuvent lui donner une prime pour sacrifice pendant 4 mois dans un club. On peut imaginer aussi que, je ne sais pas, Lélé Diba, il n'est pas essentiel non plus à Servette. Ling, il n'a jamais joué encore avec Servette. Il est pourtant dans la liste. Tout ça, c'est des éléments que Servette va peser maintenant pour essayer de sauver les meubles et libérer une place. Il n'en reste plus qu'une, puisque dans le cas des prêts, il n'y a que 2 prêts qui sont possibles qui libèrent automatiquement une place. Poitiers a déjà pris une place, il en reste une. Il faut la trouver. Avec qui? Je ne sais pas. Dans quel club? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, c'est tout le problème de Servette aujourd'hui.
Alain, tu parlais de la structure à Genève, qui base Genève Sport. Est-ce que ce n'est pas la limite ça, du multisportisme? C'est qu'on prépare une finale de Champions League de hockey, on a un match de Coupe d'Europe, c'est pas trop pour une structure comme ça, du coup?
C'est ce que disait un peu Daniel, les limites de ce type de structure, c'est peut-être aussi que tu penses que c'est ton voisin d'en face qui va s'occuper de ça, parce que toi, tu as été sollicité pour préparer un autre événement qui a aussi une importance significative pour l'organisation. Tu l'as dit, la finale de Champions League, pour ne pas la citer, mais moi, je connais pas assez les rouages. Je dis juste que quand on doit collaborer avec les clubs, y a certains clubs où tu as une personne qui fait ses montages vidéo, les réseaux sociaux, les communiqués de presse, qui fait les conférences de presse, qui s'occupe des interviews et tout. Et en principe, c'est très dur pour lui, mais ça fonctionne quand même toujours. Et à Servette, non, tu sens qu'il y a du personnel, que les bureaux sont occupés.
En l'état, je crois pas que Genève Sport est en cause. Il y a un directeur administratif à Servette, il est nouveau aussi. Il y a forcément quelque chose qui a merdé, si vous me passez l'expression, dans le cadre justement du suivi d'un
employé. Est-ce que c'est des fouteux, Daniel? C'est peut-être aussi ça la question. Est-ce que c'est des fouteux? Est-ce que c'est des fouteux?
Là, je ne veux pas entendre ça, moi. Si t'es à la direction administrative de Servette et que tu as pour Dicaster de faire en sorte que les choses se passent correctement, dans les délais, à telle date, on connaît les dates butoirs, etc. Et on sait tout ça. Nishimura, ça fait pratiquement 10 jours qu'il est là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas biffé Bedia ni Fofana? C'est hallucinant ce qui s'est passé, tout simplement.
D'avoir l'avis du club, là. Ça, c'est certain.
L'avis du club, il a été très, 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 très simple. Je vais vous le lire parce qu'il est magnifique. Donc, l'avis du club, voilà, c'est, je cite, hein, nous essayons de régler cette question administrative et nous ne souhaitons pas réagir pour le moment. Signé Servette FC. Voilà.
Bon, ça a bien amputé le débat que je voulais faire au départ. Est-ce que Servette et ou IB doivent faire tourner jeudi pour gagner dimanche? Daniel, là, du coup, il n'y aura pas besoin de faire tourner?
Non, parce qu'il n'y a pas le choix. Les joueurs ne sont pas dispo. Donc, voilà, ça ne va pas tourner. Mais enfin, voilà, cela dit... Servette avait des arguments supplémentaires avec Nishimura, davantage encore que Ndiaye et Rekik. Et en fait, Ndiaye et Rekik, c'est peut-être des paris pour le plus long terme, moyen-long terme. Nishimura et Braun, c'est 2 paris pour renforcer Servette immédiatement. Braun, il a déjà joué, il va pouvoir jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc ça, c'est pas un problème. Nishimura, c'en est un sérieux, parce qu'il apporte une solution offensive là où Servette peine à marquer des buts. On l'a vu ces derniers matchs, même s'il y a eu ce renversement incroyable contre Lugano après l'expulsion de Gurgic. Mais sinon, Servette va devoir se serrer les boulons. Voilà, Ils ont des arguments, ils ont un jeu qui peut embêter IB, ça a souvent été le cas, et puis IB est loin d'être souverain, je veux dire. Enfin, si Garbi marque son penalty, le SLO mène 1-0 à 25 minutes de la fin, ben voilà, c'est pas ce qui se passe, ils sont assez vernis, IB. Mais Servette, maintenant, va devoir faire contre cette mauvaise fortune, bon cœur.
Alors, j'ai vu les quatre derniers matchs d'IB, j'ai eu envie de vomir trois fois. C'est dimanche le match le plus important, il n'y a pas photo.
Mais Robin, en football, l'important, c'est les trois points. Ce n'est pas la manière. Et c'est vrai qu'on a tous ce sentiment que Young Boys, cette année, c'est imbuvable. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. On sent que ça grésille sur la ligne, en coulisses. Avec Raphaël Vicky, ce n'est pas la symbiose parfaite. Mais si tu regardes le bilan depuis la reprise, c'est exactement le même entre Servette et IB. C'est 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc, il faut relativiser tout ça. Moi, j'ai envie de te dire que Servette a plus à jouer jeudi soir que IB. Certainement que IB va pas y aller la fleur au fusil, mais c'est tellement compliqué qu'à la mi-temps, il va pouvoir faire tourner parce que l'affaire sera potentiellement pliée, tellement c'est dur d'aller jouer à Lisbonne. Alors que moi, je vois assez bien Servette faire une nuit interminable, match fermé, passer au bout de la nuit, avec l'euphorie de la victoire revenir, atterrir à Payerne parce qu'il faut directement se mettre au vert. Donc, je trouve que la logistique est plus complexe. Alors oui, Servette, comme je l'ai dit il y a quelques minutes en arrière, reste le seul contradicteur potentiel d'IB. Mais ça va être compliqué parce que IB reste IB, même en étant vomitif, comme tu le dis, bah, réussi quand même à toujours trouver une solution pour gagner, quoi.
Florian, ce match, il fait envie de Servette parce que tu vois qu'il y a quand même une histoire européenne qui s'est écrite cette saison, mais tu as bien envie d'aller titiller IB jusqu'au bout.
Non, pour moi, c'était pragmatique. Tu joues le coup à fond en Coupe d'Europe et tu joues le coup un tout petit peu moins à fond en championnat, en tout cas, mais c'est quelque part mathématique. Quand tu vois que tu as 7 points de retard sur IB, quand tu vois tout ce que tu as gagné à avoir des belles affiches en Europe et ce que tu as gagné financièrement aussi comparé à la Super League, tu peux pas jouer à moitié le coin.
Moi, je suis pas d'accord. Là, le championnat, c'est la priorité pour moi. La vraie priorité, c'est le championnat. Ça, en fait, doit tout donner pour être le plus haut possible au classement. Je ne dis pas que Servette va être champion et doit se battre pour se dire on va battre IB et puis on va devenir champion à la place d'IB. Même s'il y a une fenêtre de tir, elle est mince, mais il y en a peut-être une petite. Cela dit, c'est par le championnat que Servette va en Europe. C'est pas par l'Europe, à moins de gagner,
ouais, Daniel,
à moins de gagner la Conference League. Hein, voilà.
Donc, là, mais Daniel, le timing fait que tu as ce match de Ludogorets où tu as quand même encore 50% de chances de passer. Tu as 5 points d'avance sur Zurich, donc tu es plutôt bien calfeutré à la deuxième position. Même s'il faut autant regarder derrière que devant, je ne pense pas qu'il y a le feu à la maison de dire « Allez, on met deux pièces, deux jetons de plus sur la case Conference League plutôt que
pour moi, c'est un faux
calcul. Jeter ce match et tout mettre sur… Moi, je pense que ceux qui veulent tirer les marrons du feu, c'est de
c'est un faux calcul. Je vais même dire une hérésie. Tiens, si Ludogorets passe et élimine Servette, ben, ce ne serait pas un drame pour Servette, pour toutes les raisons que l'on sait, parce que maintenant, ben, ils ont perdu des joueurs, ils n'en ont pas d'autres, et ils vont pouvoir se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel pour moi, c'est le championnat, voire la coupe. Ils ont une possibilité d'arriver, ils sont en quart de finale contre Delémont, donc ils ont les portes de la demi-finale qui s'ouvrent normalement pour Servette. Ils veulent gagner un titre, et ils veulent surtout garder le standing de ce Servette qui reste en haut du classement. Laisser comme ça l'idée que bon bah IB c'est foutu, on n'y arrivera jamais, c'est un, c'est pas motivant, et deux, c'est pas sportivement, c'est pas intelligent.
Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire enchaîner deux matchs entre le jeudi et le dimanche à ton équipe type, je pense, plutôt que de tout le temps faire parler la rotation. Je pense que c'était là que je voulais en venir, c'est que tu peux prendre ce risque-là sur cet enchaînement Ludogorets et IB, et peut-être que tu fais une deux rotations plus mercredi prochain.
On l'a peut-être vu, la rotation qu'on veut mettre en place et les priorités que définit René Weiler. Regardez le match aller contre Ludogorets. Qui est sur la touche? Kuteza, Antunes
et
Konya. Voilà, trois éléments essentiels. Ben, ça veut peut-être dire, même si il ne le dit pas ouvertement, ben, que la priorité, ce n'est pas l'Europe. Et je le comprends totalement. Moi, ça ne me choque pas du tout. La priorité, ça doit être le championnat.
Ça peut aussi être un plan de match où tu veux profiter de l'absence de rythme de ton adversaire en mettant toutes tes meilleures gâchettes dans les 30 dernières minutes, et ça a failli payer d'ailleurs. Tu vois, tu peux interpréter le coaching. Bon, la réponse, on l'aura jeudi, de toute façon. On verra s'il met ce que nous, on appelle son équipe type ou s'il continue sa logique.
Pour moi, la priorité, ça doit être le championnat. En tout cas, c'est mon avis.
Pendant ce temps-là, IB a fait tourner quand même contre le SLO un peu. Et ouais, il y a quand même ce coefficient UEFA qu'il ne faut pas oublier. Hein, parce que si on fait 0 points cette semaine, ça va commencer à être compliqué. Je vous remercie pour ce volet Genevois touffu. On va quand même parler un petit peu des Vaudois de Super League. Florian, est-ce qu'on a vu le vrai LF pendant 42 minutes samedi?
Non, pour moi, le vrai LS, il oscille entre ce qu'on a vu en première mi-temps puis ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Donc, quelque chose
de... en deuxième mi-temps, donc c'est vite vu.
Ouais, exact. Mais je veux dire, enfin, dire ça, c'est pas une critique fondamentale, quoi. Ça veut dire que le LS, c'est les deux à la fois. C'est cette équipe qui peut être brillante, puis c'est cette équipe qui peut se battre elle-même aussi. Donc, voilà, si elle entend quitter cette 11e place, il faudra un peu plus du 1 plutôt que du 2. Et c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, cette première mi-temps a fait beaucoup de bien, je pense, de pouvoir sécuriser un résultat, même si c'était chaud par la suite, de pouvoir déjà sécuriser un résultat en première mi-temps, puis voilà, pour pouvoir se dire ensuite, bon, ok, cette fois, on a notre victoire, on peut avancer, c'est quelque chose.
Alain, on a beaucoup vilipendé Yverdon Sport pour son projet, pour ses engagements à tour de bras, mais finalement, le LS, qui commence avec le seul Suisse Giguère à droite, alors que le LS a recruté un Algérien à Yverdon pour jouer à ce poste-là, on est à ça d'avoir un LS avec zéro Suisse titulaire. C'est dingue.
Oui, mais Robin, moi, je n'ai pas les mêmes origines que toi, donc ça me frappe moins. Je ne suis pas attaché à ce genre d'éléments. Mais oui, dans le foot suisse, je n'ai pas fait la liste, mais je pense que tu peux faire le tour des 12 clubs de Super League et tu as une minorité d'indigènes dorénavant dans les différents contingents. Donc, le championnat est devenu une sorte de plateforme transitoire pour beaucoup de nations africaines ou de l'Est pour espérer rebondir dans le championnat suisse et atterrir dans ce que tout le monde rêve, dans le Big Five, quoi. Et ça me surprend pas. Moi, j'ai plus retenu le fait de ce qu'on sait déjà depuis le début de l'année. Alors, je dévie de ta question, Robin, mais je préfère te parler de ce qu'on a ressenti. C'est que Lausanne, depuis le début de la saison, on a toujours dit qu'ils n'étaient pas si loin, mais sur la ligne d'arrivée, ils n'avaient pas concrétisé leurs bonnes intentions. Moi, je pense que s'ils commencent à claquer des buts, forcément, ils vont claquer des points. S'ils claquent des points, ils vont engranger de la confiance. Et le Lausanne qu'on a vu au deuxième mi-temps va assez vite disparaître. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont, dans la durée, pouvoir reproduire telle prestation. Ils ont quand même des adversaires assez compliqués qui se profilent. Là, ils jouent Winterthur ce week-end à domicile. Il faut espérer enchaîner. Mais ensuite, ils jouent Bâle. Enfin, ils ont comme tout le monde, hein, tu me diras, sur cette fin de printemps compliqué. Mais s'ils arrivent à enchaîner, moi, je pense qu'ils peuvent gentiment aller taper Guetze au classement et se sauver de cette place de barragiste.
Daniel?
Ouais, alors c'est toute la question, parce que j'ai regardé Lausanne contre Yverdon. Il faut dire la réalité. Je veux dire, les deux premiers buts de Lausanne, c'est des cadeaux comme on n'en a même pas idée d'Yverdon, qui offre littéralement deux buts à Lausanne. Donc ça aide beaucoup. Alors je veux bien qu'on se dise que Lausanne se relance grâce à une fantastique première demi-heure, mais ça demande à être nuancé et à être confirmé dans la longueur. Parce que qu'est-ce qui se passe après? À 10, Yverdon arrive à réduire le score, et à 10, obtient un penalty qui aurait pu valoir le 3-2 et une fin de match dans toutes les tensions. On n'ose même pas imaginer ce qu'aurait fait Lausanne dans ces conditions-là. Donc Lausanne a marqué 3 buts en 30 minutes avec la bienveillance d'un Yverdon à côté de ses pompes dans cette première demi-heure.
Et diminué aussi.
Mais pardon ?
Yverdon était diminué quand même.
Oui, mais il va falloir attendre une confirmation quand même un peu plus sérieuse pour Lausanne. Voilà.
Florian, est-ce que Yverdon ne sont pas arrivés même diminué, mais un petit peu avec le cigare, tu sais. Parce que quand il a fallu charbonner à 10, ils ont retrouvé les valeurs qu'on leur connaît. Mais en début de match, je ne sais pas, ils n'avaient pas envie, l'équipe.
Ouais, non, je pense pas trop qu'il y a de ça, franchement. Yverdon, c'est une équipe finalement sur courant alternatif qu'on a, on avait encore en mémoire cette bonne prestation contre Servette, mais il n'y a pas eu que ça cette saison, quoi. Et quand tu compares les deux en matière de politique de trading, ce dont tu voulais parler, je pense évidemment qu'on peut comparer les deux équipes, mais Yverdon est quand même dans une dimension supplémentaire. On parle de 24 recrues depuis le début de la saison quand même. Et j'ai l'impression qu'au LS, il y a quand même la volonté de créer une sorte d'ossature autour de joueurs que tu mets en valeur. Ça marche plus ou moins bien. Ça marche avec, par exemple, un Noé Dussen qui est venu comme cadre. Ça aurait un peu mieux dû marcher avec Olivier Custodio, mais mine de rien, ça reste le capitaine. Il est là et il s'implante. Ça aurait dû marcher avec Simone Grippo, mais ça fait 2 ans qu'il se blesse à peu près tous les 5 jours. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même une volonté de créer un peu plus quelque chose sur la durée à Lausanne qu'à Yverdon, même si évidemment on parle de nuances dans un projet de trading.
Il y a aussi un peu une, quelque part, hein, qui se dessine, bon an mal an, une petite ossature à Yverdon avec quelques anciens qui encadrent un tournus autour d'eux. Et puis on le voit.
Ils sont deux, Daniel.
Ouais, bah non, bah parce qu'il y a Lopogam, il y a Sautier, et il y a quelqu'un comme Cespedes, par exemple.
Non, ouais, mais je veux dire, il est là 6 mois, quoi.
Mais ouais, mais enfin, n'empêche que dans le cadre de ce que veut proposer Yverdon avec beaucoup de gens qui tournent autour, la présence d'un Cespedes et précisément son absence contre Lausanne a été complètement problématique, notamment pour Yverdon.
Non, mais super Cespedes, je suis d'accord avec toi, il fait beaucoup de bien à l'équipe, etc. Mais bon, pour l'instant, on peut pas dire que c'est un joueur qui soit inscrit dans une quelconque idée de long terme, quoi. Je peux tout à fait l'imaginer partir cet été, par exemple.
Mais on a vu quand même, Alain, c'est que quand Yverdon arrive à lâcher un type en prêt avec option d'achat qu'ils ont engagé l'été passé, juste pour faire du roulement, quoi, juste pour valider le concept de trading.
Ouais, alors il y a ça, et puis il y a surtout aussi la même problématique que Servette a omis de garder sous surveillance permanente, c'est que nous on était à l'affût de ça à la reprise, parce qu'on se demandait comment Yverdon allait pouvoir qualifier tous ces joueurs, parce que ils étaient clairement en manque de disponibilité, et on a parcouru le même règlement que Daniel avec les histoires de prêts, et là on a Onguet là qui revient de la CAN et qui apprend qu'il a été biffé alors qu'il est international camerounais, etc., etc. Donc ça montre bien aussi cette gestion américaine, quoi, gestion NBA. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi.
Ouais, le cas Onguet et le cas Lucif, c'est des parfaits exemples. Onguet, on l'annonce l'été dernier comme un international camerounais, un type qui a joué la Coupe du Monde, etc., qui arrive vraiment comme un taulier. 6 mois plus tard, on n'en veut plus. Lucif, pareil, international algérien, super machin. 6 mois plus tard, on le prête au Lausanne Sport juste pour libérer une place, et 2 jours plus tard, on annonce une nouvelle recrue. Donc, je veux dire, là, on est vraiment au paroxysme du training.
Pour rester dans l'administratif, Florian, on ne sait pas trop bien qui va être barragiste en Challenge League, en fait, parce que Sion est quand même parti pour monter assez tranquillement. Derrière, c'est Toon, mais il semblerait qu'il n'y ait plus trop de sous là-bas.
Oui, exactement. Petit trou de 800 000 balles qui vient de Pop. Le cas du FC Toon est quand même assez intéressant, parce que ils ont vendu un quart du club à une entreprise sino-américaine, et ils sont vraiment en train de se questionner, mais c'est vraiment un questionnement d'identité de club et puis de modernité, etc. Mais est-ce que finalement on vend complètement le club à cette entreprise parce qu'elle a envie de racheter le FC Toon, et ça permettrait au FC Toon de passer dans une nouvelle dimension, d'avoir plus de moyens, etc. Et en même temps, les dirigeants en place, qui sont des anciens joueurs aussi, Andrés Gerber notamment, qui a porté le brassard de capitaine à l'époque, ben lui, c'est quand même un défenseur de l'identité d'un club, et il n'y en a plus beaucoup en Suisse, et lui est là, mais non, il faut qu'on trouve une solution autre que de vendre notre âme quelque part à cette entreprise, il faut qu'on trouve des acteurs locaux, il faut qu'on bouche le trou d'une manière un peu plus peut-être locale. Et vraiment, la question autour du FC Toon est super intéressante, parce que je pense que ces 10 ou 15 dernières années, à peu près tous les clubs en Suisse sont passés par là et la plupart ont choisi l'option de se vendre.
Mais en politique football, fiction, ça veut dire que potentiellement tout ne remplirait pas les conditions pour briguer une licence pour jouer en Super League, donc voie royale pour la session.
Absolument.
Autant qu'il fasse la demande à Bonnet Duforme. Ça évolue ça,
c'est, ça là-bas. Du coup, à l'étage d'en dessous, c'est jurisprudence Xamax qui avait voulu éviter le barrage l'année passée. Donc, ce serait le troisième, ce serait Ville, ce serait Xamax, justement, ce serait Stade Lyonnais.
Je peux imaginer Schaffhouse, plutôt vu à quel point ils sont renforcés, vu à quel point, jusqu'au dernier jour du mercato, ils ont fait venir des assez gros noms. Ils semblent assez bien armés pour ce deuxième tour. Maintenant, eux aussi ont quand même des soucis par rapport à leur investisseur principal qui est Performance ou je ne sais pas exactement quelle entreprise, qui a vraiment des gros soucis avec la justice aussi. Et je serais curieux de savoir ce que va faire la commission des licences par rapport à ça, parce que tout n'a pas l'air tout blanc-blanc et s'échafouse. Donc, de nouveau, on a vécu un super printemps l'année passée par rapport à ça, avec le Stade Lyonnais notamment et toutes les questions qui sont posées. Moi, je pense que celui qui arrive, il va être corsé aussi.
Mais Daniel, en fait, dans le football suisse, maintenant, le poste tactique, qui devrait être le mieux rémunéré ou devrait être le plus gros transfert, c'est team manager ou secrétaire ou comptable, en fait.
Ouais, mais enfin, en même temps, on parle d'une bourde invraisemblable, là, dans le cas de Servette. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même pas sorcier de dire, OK, jeudi 15, 23h59, je dois avoir envoyé la liste. Si je le fais pas, je sais pas, quoi. Je veux dire, il faut changer d'orientation, quoi. Je dirais, c'est quand même compliqué de justifier ça. Alors après, je sais pas, dans l'absolu, peut-être que la personne a envoyé le mail, s'est gouré d'adresse, ou j'en sais rien, je sais pas ce qui va être argumenté. Mais le fait est que la Ligue a rien reçu. Et puis, si je suis préposé à l'envoi de ce mail, je peux vous dire deux choses. Un, quand je l'envoie, c'est avant 23h59, pour être sûr. Et puis deux, quand je l'envoie, je téléphone à la Ligue et je dis, vous l'avez bien reçu, vous me confirmez? On me dit oui. Je dis, tu m'envoies maintenant un mail pour me dire que j'ai bien reçu. Puis une fois que j'ai ça, je peux aller dormir tranquille. Voilà. Mais ça, manifestement, ça n'a pas été le cas.
Alain, c'est là qu'on voit que le football suisse, même une formule à 12 avec le classement au milieu, avec une Challenge League à 10, en fait, là, il y a toujours les mêmes problèmes, quoi.
Bah oui, mais on le sait, enfin, c'est pas d'aujourd'hui que dans nos deux premières divisions en Suisse, on sait qu'il y a des amateurs qui se prennent pour des professionnels. Je dis ça, je dis rien, quoi. Donc ça me surprend pas. Je parle pas là du cas sur lequel Daniel s'est longuement épanché, mais en deuxième division, il suffit d'aller voir quelques matchs. T'arrives, il vous faut une feuille de match, ouais, s'il vous plaît, quoi. Enfin, sinon on va faire une photo du tableau tactique de l'entraîneur dans les vestiaires, mais enfin, pour moi c'est pas une découverte.
Là, j'ai deux trois histoires sur les vestiaires à Baden qui sont assez marrantes, hein, si jamais.
Ouais, mais ce qu'il y a aussi de confondant, c'est de voir cette mode du trading qui commence à essaimer un peu partout en Suisse, parce qu'il faut être conscient d'une chose, en Suisse on n'a pas les moyens de s'engager des joueurs forts, donc maintenant beaucoup de clubs disent qu'il faut spéculer en faisant venir des jeunes d'ailleurs, qui vont jouer à la place des jeunes formés ici, c'est tout le problème. Et ça arrive dans l'élite, évidemment, avec Yverdon, avec Bâle, voire avec Lausanne et d'autres dans d'autres clubs. Donc, ça commence à devenir très inquiétant. La formation à la Baloise, vous avez le souvenir quand même des Chaka, Chakiri, Sommer, Streller, Fry et compagnie qui sont… peut-être pas Fry, il n'était pas à Bâle quand il est sorti, mais c'est quand même quelque chose qui existait. Maintenant, tous les gamins se cassent à 15 ans ou à 16 ans, dans le meilleur des cas, pour l'étranger, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas la place qui sera réservée à un autre étranger qui sera plus croustillant à revendre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mort de la formation en Suisse, alors que c'est le seul chemin vers lequel on devrait se diriger. Et puis, ça va jusqu'en Challenge League, puisqu'en Challenge League, on a 10 équipes, alors qu'on devrait en avoir 2x10 dans deux groupes pour favoriser l'émergence des jeunes joueurs dans le jeu d'adultes, en post-formation, autrement dit. Et ça, c'est dramatique. Personne ne se penche jamais sur cette question-là. Et ça fait des années que ça dure. On est en train de tuer la formation, tout simplement.
Et surtout, ça donne pas envie au club de jouer le jeu, parce que regarde ce qui se passe en Promotion League. Là, je fais un pas de côté, mais tous les moins de 21 Promotion League sont dans la deuxième partie du classement. Donc, c'est que là, il y a quelque chose qui est mal ajusté dans ce tampon transitoire entre les classes juniors et le monde professionnel. Là, je suis d'accord avec toi, Daniel.
Merci, messieurs. C'était très intéressant. On part tous répéter nos règlements et voir si les fax et les mails fonctionnent.
Moi, je vais vérifier mes spams pour voir si je n'ai pas un mail de Servette pour une demande de qualification.
À bientôt, merci.
Salut.
Bye bye. Ciao.